Droits de l'homme et démocratie avec Justine Lacroix et Marcel Gaucher. Comme le rappelle utilement la philosophe Justine Lacroix, dans le livre qu'elle a coécrit avec Jean-Yves Pranchère, « Le procès des droits de l'homme », l'idée que les hommes naissent libres et égaux en droit et la déclaration qui s'ensuit ont longtemps fait l'objet de critiques sévères venues aussi bien du camp de la tradition que de celui de l'émancipation. Ces critiques n'ont pas survécu aux deux grandes expériences totalitaires du XXe siècle. Les droits de l'homme sont la valeur cardinale de notre temps, l'alpha et l'oméga de la morale collective. On s'y réfère constamment, soit pour en dénoncer la violation, soit pour en réclamer l'application, soit pour en prolonger l'inspiration. Ils constituent le catéchisme d'un monde sans Dieu, l'idiome des révoltes et des luttes, le viatique enfin d'une société qui ne croit plus que c'est en renversant la table qu'on change le monde. Et ceux-là même qui auraient naguère combattu un ordre établi sur l'hypocrisie ou l'égoïsme des droits bourgeois de l'homme s'appuient maintenant sur les droits de l'homme pour combattre l'ordre établi. Nous allons parler aujourd'hui de cette consécration, du progrès qu'elle accomplit, des problèmes éventuels qu'elle pose avec Justine Lacroix et avec Marcel Gaucher qui publie le quatrième et dernier volume de l'avènement de la démocratie sous le titre « Le Nouveau Monde ». Dans ce livre, Marcel Gaucher, vous vous appliquez à bien faire la distinction entre le moment actuel des droits de l'homme et leur grand moment inaugural. Vous allez même jusqu'à dire qu'une autre révolution est à l'œuvre, qu'un nouvel esprit se met en place. De quoi ce nouvel esprit est-il fait? Quelles en sont les composantes? Marcel Gaucher.
Le premier problème que pose la notion même de droits de l'homme, c'est de s'imposer en tant que vérité évidente par elle-même, comme dit la déclaration d'indépendance américaine, hors histoire, comme un principe descendu du ciel, en quelque sorte, qui ne s'inscrirait dans aucun devenir, mais aurait une force d'évidence, dont on comprend très mal d'ailleurs comment elle n'aurait pas régné depuis les débuts de l'humanité, si tel était le cas. Or, au contraire, je crois qu'il faut, qu'il est capital pour entendre les problèmes que nous pouvons avoir avec aujourd'hui cette puissance irrésistible des droits de l'homme, c'est de les réinscrire dans leur histoire, de comprendre comment ils sont nés, d'où ils sortent, à quoi ils servent, et de saisir les étapes du devenir qui les caractérisent. Et je crois qu'en effet, on peut schématiquement, on peut toujours complexifier un récit historique, mais on peut distinguer deux grands moments des droits de l'homme. Un premier moment que je propose d'appeler politique, celui de la Révolution française, pour faire simple, disons des révolutions de la fin du XVIIIe siècle, où la fonction primordiale des droits de l'homme est de définir une légitimité populaire. Il s'agit d'imposer le principe de la souveraineté du peuple ou de la nation contre l'ancien édifice de la monarchie sacrée et l'idée d'un pouvoir transcendant. C'est cela qui fait l'âme de ce qu'on va appeler les révolutions bourgeoises, et c'est en grande partie sur cet usage politique des droits de l'homme que portent les critiques que vous évoquiez tout à l'heure. Je crois que nous sommes dans un moment différent, non que le premier soit dépassé ou révoqué par la nouveauté, mais nous sommes devant un élargissement de l'entente des droits de l'homme, de leur nature, de leur signification, de leur portée. On peut le caractériser comme un moment juridique, mais je crois qu'il y va plus profondément de l'idée qui révèle la nature profonde de ce principe, qui a 5 siècles derrière lui maintenant. Les droits de l'homme définissent un principe de composition de la société. et pas simplement un ordre de légitimité politique. Ce qu'on attend d'eux, c'est de nous dire de quoi doit être faite une collectivité, quelle qu'elle soit. Elle doit être composée d'individus dont les droits personnels sont la première valeur à protéger dans ce cadre. C'est en ce sens qu'il faut faire coïncider l'avènement de la société des individus dans la plénitude de l'expression et ce second moment des droits de l'homme qui, du coup, élargit considérablement leur sphère d'application. Il ne s'agit pas simplement d'en tirer une organisation politique, il s'agit d'en tirer une vision de la société et de son fonctionnement, depuis la famille jusqu'à la politique, bien sûr, aux relations internationales, en passant par la vie économique. Il y a une sorte, avec les droits de l'homme, nous aurions une pierre de touche qui permettrait de définir l'ensemble des interactions entre les humains.
Justine Lacroix, est-ce que vous êtes d'accord avec ce...
Oui et non. J'ai un petit désaccord avec votre introduction. Donc, quand on parle aujourd'hui de consécration des droits de l'homme ou que vous dites que les droits de l'homme sont devenus notre nouveau catéchisme, je dirais que le propos me paraît quand même singulièrement daté, pardonnez-moi. Effectivement, il y a eu un retour, un renouveau de la référence aux droits de l'homme qui a été très forte suite à l'épuisement des idéologies révolutionnaires dans les années 70, début des années 80. Nous, Jean-Yves Franchère et moi, on est quand même partis du constat dans cet ouvrage que ce moment est peut-être largement passé. Je veux dire, que ce soit dans les discours politiques, dans les pratiques politiques, il ne me semble pas du tout qu'on assiste aujourd'hui à une consécration des droits de l'homme, mais plutôt, et on aura peut-être l'occasion d'y revenir, à une régression des droits, régression sous l'effet notamment du néolibéralisme, là aussi on y reviendra, et un renouveau des critiques ou d'une prise de distance, en tout cas, vis-à-vis du vocable des droits de l'homme qui me paraît très net aussi bien dans la sphère politique que dans la sphère intellectuelle. Donc ça, c'était la première, peut-être mon premier point de désaccord. Alors, par rapport à ce que disait Marcel Gauchet il y a un instant, je trouve peut-être la thèse d'une opposition entre un premier moment des droits de l'homme, où les droits de l'homme sont quand même définis avant tout sous la forme de l'autonomie collective, de la prise en charge de la société sur elle-même, et puis un deuxième moment des droits de l'homme qui serait le nôtre, où les droits de l'homme ne seraient finalement plus que le droit d'individu contre la société. L'opposition me paraît un peu trop tranchée, c'est pas moi qui vais l'apprendre à Marcel Gauchet, que les révolutionnaires de 89, certes, tentaient d'établir un nouveau principe de légitimité politique, un nouvel État souverain, mais enfin, ils cherchaient aussi et avant tout à imposer des limites à cet État. Et d'ailleurs, les premiers critiques de la Déclaration des droits de l'homme ne s'y sont pas trompés quand ils s'engouffrent tous pour dénoncer l'individualisme, la décomposition de la société qu'entraînerait cette nouvelle idée. Ils ont bien vu le cœur individualiste qui, pour eux, pouvait ronger l'organisation de la vie collective. Et j'ajouterais que la nouvelle révolution des droits de l'homme, elle a aussi conduit, elle s'opère avant tout au sein des sphères domestiques, au sein de l'État. Elle a aussi conduit à une redéfinition de la citoyenneté nationale par des luttes collectives menées au nom du droit des femmes, au nom des droits des homosexuels et tout ça, qui conduisent à une redéfinition de la citoyenneté.
Ah, alors, vous reconnaissez que les luttes aujourd'hui se font au nom des droits de l'homme. Alors, je vais essayer quand même de justifier un peu ma présentation. Et à partir de là, de vous poser une question à tous deux. Je crois en effet que les droits de l'homme sont l'idiome dans lequel on parle aujourd'hui et tout le monde parle. D'où une difficulté. Et je vais donner trois exemples. Ceux qui sont opposés au voile islamique et qui défendent son interdiction à l'école, le font au nom des droits de l'homme. C'est aussi, et donc en l'occurrence, des droits de la femme. Hein, l'égalité des hommes et des femmes. C'est aussi l'argument qu'ils invoquent pour justifier l'interdiction du voile intégral dans l'espace public. Leurs adversaires, quand bien même ils veulent le retour d'une certaine hétéronomie, c'est-à-dire de la loi venue d'en haut dans l'espace public, se réclame des droits de l'homme, de la liberté de conscience. C'est cette liberté qu'ils invoquent pour réclamer le voile. D'ailleurs, Hélé Béji le montre très bien dans son livre Islam Pride, où elle dit que, d'une certaine manière, les femmes voilées sont les suffragettes du voile aujourd'hui. Et de même pour la burqa. De même pour la burqa. Martha Nussbaum, prêtresse américaine du politiquement correct, cite Giorgio Armani, qui en quelque sorte défend la burqa, en disant qu'il faut respecter les cultures et les convictions des autres. L'argument d'un couturier. Non. De même, sur une autre question, la gestation pour autrui. Ceux qui sont favorables à la gestation pour autrui se réclament de ce nouveau droit qu'on appelle le droit à l'enfant. Ceux qui s'y opposent parlent de l'égale dignité des personnes qui seraient bafouées si les femmes louent leur ventre. Et même l'avortement, c'est un conflit entre deux conceptions des droits de l'homme. Le droit des femmes à disposer de leur propre corps et le droit à la vie réclamé par les adversaires de l'avortement pour les fœtus. D'où la situation très singulière où nous sommes. Si tout le monde se réclame des droits de l'homme et les adversaires les plus résolus, au nom de quel principe va-t-on trancher, Marcel Gaucher?
Je suis d'accord sur votre constat. C'est l'idiome général. Et pour là, une raison qu'il faut bien comprendre, c'est la pierre de touche de toute légitimité en matière de rapport interhumain. Donc, c'est à cette pierre de touche qu'il s'agit de rapporter l'évaluation du juste ou de l'injuste dans ces matières. Rien de surprenant à cela, c'est le développement complet de ce que représentent à la source les droits de l'homme. Mais je reviens un instant sur l'objection que m'adressait Justine Lacroix, qui, descriptivement, est tout à fait juste. Je crois en effet que le moment euphorique des droits de l'homme que nous avons connu dans les années 80 et que l'effondrement de l'Union soviétique, pour aller vite, a sanctionné. Et ce moment est derrière nous, c'est incontestable. Mais, et cela nous ramène droit à notre question, pourquoi ? Pourquoi l'est-il ? Parce que, précisément, nous découvrons qu'à partir d'un principe de légitimité, on peut tirer des conséquences tout à fait opposées, que nous ne pouvons pas trancher, car il y a du bien fondé dans les arguments qui sont échangés de part et d'autre dans chacune de ces causes, et nous sommes dans le moment de la perplexité. Après la consécration vient le moment de l'application, et c'est dans l'application que les difficultés se révèlent. Si je puis dire, les droits de l'homme ouvrent un champ de perplexité collective immense, parce qu'ils sont une source dynamique, mais une source qu'on peut exploiter dans des directions très opposées. Et ils ne fournissent pas la clé qui permet de trancher ces discussions qui relèvent de l'incorporation d'autres facteurs de la vie collective. C'est bien ça le doute où nous sommes.
Bah, là-dessus, moi, je vais peut-être vous surprendre, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Je crois qu'effectivement, les droits sont devenus le principal idiome de revendication sociale et de lutte, des luttes dans lesquelles les luttes politiques s'articulent aujourd'hui. Et en fait, je pense qu'il faut tout de suite lever un malentendu. Je crois qu'il y a deux phénomènes à distinguer. Il y a d'abord, disons, ou plutôt deux griefs qui sont adressés aux droits de l'homme, dont l'un me paraît peut-être fondé et l'autre pas. Le premier, c'est quand on nous dit, au fond, aujourd'hui, il y a une prolifération des droits. Les droits envahissent tout, il y a une prolifération des droits. Moi, c'est une critique qui nous semble, à Jean-Yves et moi, de plus en plus irréelle au regard de ce qu'il faut bien appeler une régression des droits au cœur même de l'Union européenne, et on pourrait multiplier les exemples de la situation des réfugiés à ce qui se passe en Pologne ou en Hongrie. Donc je crois qu'on assiste plutôt aujourd'hui à une régression des droits. Par contre, il y a quelque chose avec lequel je serais tout à fait d'accord avec vous, c'est qu'effectivement, il y a peut-être une inflation du langage des droits. Et le fait que, dans notre ouvrage, nous soyons situés, même qualifiés nous-mêmes de droits de l'homiste ou de fervents partisans des droits fondamentaux, ne signifie pas du tout que nous approuvions cette inflation du langage des droits. On peut être tout à fait partisan de la primauté des droits fondamentaux, même pas de la primauté, de l'importance des droits fondamentaux, et considérer qu'il existe des obligations, des intérêts sociaux fondamentaux qui ne doivent pas forcément être formulées en termes de droit. Moi, je reste relativement perplexe, par exemple, quand on parle de droit de la nature, voire, je vais peut-être en choquer certains, de droit des animaux. Je pense qu'il y a tout un registre d'obligations à prendre en compte qui ne gagne peut-être pas forcément à être formulées en termes de droit, en tout cas pas au sens fort d'un droit à l'égale liberté tel qu'ils sont définis dans la Déclaration des droits de l'homme.
Oui, vous dites, Marcel Gauchet, dans votre livre, que ce qui caractérise l'individu aujourd'hui, c'est qu'il se définit avant tout par ses droits et par ses intérêts. Et pour aller dans le sens de Justine Lacroix, j'y vois, moi, une définition très, peut-être est-ce vrai, mais est-ce que c'est pas un rétrécissement terrible de, si j'ose dire, la personnalité humaine. C'est-à-dire que les individus ont des droits, mais ils ont aussi des obligations, des responsabilités, des dettes, des admirations, et tout cela doit être pris en compte. Et si tel n'est pas le cas, si au bout du compte, au bout de l'histoire des droits de l'homme, l'individu se définit comme un pur sujet de droit, cet individu ne risque-t-il pas d'être un mufle ? Car il y a aussi, je parlais d'obligations, mais aussi des inhibitions salutaires auxquelles nous sommes en quelque sorte habitués par l'éducation même. Un pur sujet de droit, ce n'est rien d'autre qu'un mufle, non, Marcel Gauchet ?
Je crois que personne ne nierait... Personne, y compris les mufles, ne nierait la description que vous donnez. Le problème n'est pas là. C'est le droit définit ce qui est socialement sanctionnable. Personne n'ignore que ces individus abstraits que définit le droit sont aussi autre chose. Et je crois précisément que le grand problème existentiel de l'individu contemporain est de faire le joint entre ce qu'il est abstraitement en tant que sujet de droit et ce qu'il est concrètement comme un être incorporé qui le demeure. Et je dirais même plus socialisé que jamais, en réalité. Mais, du point de vue social, ne sont reconnus en droit que l'abstraction de ses droits et de ses intérêts qui vont avec. C'est l'autre face complexe de ce problème qui nous rattrape aujourd'hui. Nous l'avions probablement mal mesuré à l'époque où l'affirmation des droits s'inscrivait comme un projet émancipatoire par rapport à un ordre social répressif ou oppressif. Mais la question est là. C'est le problème, très concrètement, auquel nous confronte ce phénomène contemporain de l'incivilité. Rien dans ces règles de politesse, pour prendre l'exemple le plus simple, ne constitue une obligation juridique et légale, sanctionnable. Néanmoins, nous savons tous que la vie sociale passe par cette civilité. C'est une de ses dimensions fondamentales. C'est un vieux problème, c'est le problème des mœurs. Et le problème de l'articulation du droit et des mœurs, là aussi, il se pose depuis longtemps. Mais il acquiert une nouvelle acuité. La question, donc, c'est qu'il y a autre chose que les droits dans la vie sociale. Et le grand problème qui fait, à mon sens, la perplexité que nous évoquions tout à l'heure, c'est cette absence d'un référent clair dans l'esprit de tous pour juger de ce qui excède la sphère des droits ou ce qui se situe en dehors d'elle, mais qui est néanmoins vital dans l'existence collective.
Justine Lacroix.
Oui, mais que les droits soient pas le seul référent de la vie sociale, ça me paraît, je crois que personne ne pourrait contredire cette idée, tout le monde est d'accord, mais il faut peut-être pas faire peser sur les droits, disons, une charge dont ils ne sont pas responsables. Disons, l'affaiblissement de la civilité, s'il est avéré, je dois dire, je vois assez mal le rapport qu'il peut entretenir avec les droits individuels. Et surtout...
L'incivilité se justifie par le droit au respect. J'ai pas été respecté, ce professeur ne me respecte pas. Donc, quelquefois, l'incivilité elle-même s'exprime dans l'idiome des droits de l'homme. Et il est vrai qu'une classe, par exemple, dans un lycée, ne peut pas être réglée exclusivement par les droits de l'homme. Puisqu'il y règne une discipline, si vous voulez, il y règne une dissymétrie dont les droits de l'homme ne peuvent pas rendre compte,
mais bien sûr,
puisqu'ils sont fondés sur la liberté et l'égalité.
Bien sûr, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que les droits n'ont pas vocation à enserrer toute la réalité sociale. Et s'agissant des enfants, les enfants ont certes des droits, mais qui sont des droits minorés. Ils ne disposent pas du droit à l'égale liberté. Ça me paraît tout à fait clair qu'il y a effectivement là des dissymétries de situation. Mais je dirais, ce qui me gêne, c'est que à quoi devons-nous nous opposer ? Est-ce que nous devons prendre nos distances avec le vocable des droits de l'homme, ou est-ce que nous devons prendre nos distances avec une certaine instrumentalisation des droits de l'homme? Et je dirais que c'est sur ces deux concepts peut-être que je suis peut-être le plus mal à l'aise par rapport à certaines de vos analyses, parce que je pense que sur le fond, nous ne sommes pas tellement en désaccord, mais sur la forme, vous prenez vos distances par rapport au lexique des droits de l'homme et par rapport au lexique de l'individualisme. Or, il me semble à quoi on assiste aujourd'hui, notamment sous l'emprise du néolibéralisme, c'est un dévoiement du lexique des droits de l'homme. Qu'est-ce que fait le néolibéralisme ? C'est qu'il réduit l'égalité à une égalité formelle, c'est qu'il oublie la fraternité, c'est qu'il fait de la liberté la simple liberté de la gente poursuivre son intérêt en oubliant le concept d'autonomie. Et je dirais, pourquoi abandonner ce vocable des droits de l'homme aux forces néolibérales ? Pourquoi leur abandonner aussi le concept d'individualisme ? Magnifique concept dont je rappelle que Jean Jaurès disait qu'il était le but du socialisme, c'était l'épanouissement des individus libres. Et je me dis, je parfois dommage que des sociodémocrates ne se saisissent pas de ces notions pour montrer à quel point elles sont dévoyées dans une certaine doxa contemporaine, plutôt que de donner l'impression de les critiquer en tant que telles.
Marcel Gauchet.
Notre point de désaccord, au fond, porte sur cette notion d'instrumentalisation que vous utilisez, comme s'il y avait d'un côté de bons droits de l'homme et de l'autre de mauvais usages des droits de l'homme. Alors, non pas du tout que je récuse l'idée qu'il y a de très mauvais usages des droits de l'homme, des usages abusifs et des impostures, pures et simples même. Mais je crois qu'il faut, par exemple, s'agissant du néolibéralisme, qui est le cœur un peu d'un problème collectif aujourd'hui, bien prendre garde à la connivence de fond qui existe entre au moins certaines de ces instrumentalisations dont vous parlez et la dynamique même des droits de l'homme telle qu'elle fonctionne dans notre société. C'est là qu'est le point vif, au fond, de notre discussion. Justement, dès lors que l'on renonce à regarder les droits de l'homme comme dans une essence intemporelle, mais qu'on les ancre dans une histoire effective et dans une dynamique collective, on voit bien que nous sommes confrontés aujourd'hui à une dimension que nous ne pouvions pas soupçonner et que, évidemment, Jaurès, quand il écrit, ne pouvait pas même envisager, qui lie la dynamique des droits et la dynamique des intérêts. Il y a une sorte de logique intrinsèque, enfin c'est en tout cas la thèse que je soutiens et dont évidemment il y a lieu de discuter, il y a une dynamique intrinsèque des droits individuels qui conduit à définir une certaine forme de société. Une forme de société dont, par exemple, le mécanisme de marché devient la pierre angulaire comme règle de fonctionnement. S'il n'y a rien au-dessus des droits des individus, qu'est-ce qui peut régler la marche du collectif ? Et je crois que c'est là que les choses se passent, et c'est pourquoi ma démarche est de rappeler les droits de l'homme à leur vraie fonction. Mmh. Le problème est de définir leur bon usage. Il ne s'agit pas de les critiquer en tant que tels, métaphysiquement, mais de les ramettre à leur juste place au regard d'autres dimensions du collectif qui, précisément, sont le moyen, quand on les rappelle, quand on en fait valoir l'exigence, de borner non seulement leur dévoiement, mais de leur donner leur véritable signification.
Justine Lacroix, vous voulez répondre ?
Oui, mais je crois qu'effectivement, je maintiendrai quand même cette idée d'instrumentalisation, parce qu'il me semble, en tout cas, effectivement, le néolibéralisme, je partage tout à fait votre point de vue, votre diagnostic sur ce point, et le problème que nous avons affronté aujourd'hui. Et c'est vrai que j'éprouve la perplexité quand je lis qu'au fond, le néolibéralisme s'appuierait d'une part sur le fondamentalisme du marché, d'un côté sur l'idéologie des droits de l'homme. Je rappellerai quand même, on le sait ici, que Hayek était des plus réticents par rapport à la Déclaration des droits de l'homme, que c'est avant tout, il entend quand il défend les droits individuels, c'est avant tout certaines règles de conduite, que son modèle c'est comme M. Burke, et d'ailleurs vous le montrez très bien dans toute la première partie de votre ouvrage, que le néolibéralisme a quand même plus partie liée avec un néoconservatisme, avec l'insistance sur la tradition comme condition d'efficience du marché, avec l'insistance sur la tradition nationale, qu'avec un disons que le néolibéralisme promeut plutôt un libéralisme de la constitution, hein, séparation des pouvoirs, régime mixte, qu'un régime de l'égale liberté. Et du côté de l'individualisme, c'est plutôt le modèle, j'en discutais récemment avec mon co-auteur, qui me disait au fond c'est plus le modèle de l'individu entrepreneur de lui-même qui peut céder ses droits dans des échanges où les droits ne sont plus inaliénables mais librement résiliables dans des pratiques juridictionnelles qui se développent aujourd'hui. Et ça me paraît quand même, je maintiens une idée, une perversion du sens, s'il y a un sens authentique des droits de l'homme.
Oui, mais alors... Sur le mot même d'individualisme,
oui.
Oublions un instant son instrumentalisation possible. Je disais que l'homme se définissait aussi par des obligations, des inhibitions, une responsabilité et des dettes, et je voudrais aller plus loin, rappeler la grande polémique moderne entre les Lumières et le romantisme. Les Lumières définissent l'homme par sa capacité précisément de s'arracher à la tradition, à la coutume, de devenir, de penser, d'agir par lui-même, définition, si vous voulez, haute de l'individu. Le romantique rappelle l'importance justement de l'inscription de l'homme dans un monde. C'est son appartenance qui l'humanise avant toute chose. Nous sommes, me semble-t-il, les héritiers de cette double tradition. Il y a en nous une sorte de conflictualité intime. Nous sommes tourmentés, tiraillés entre le romantisme et les Lumières. Et j'en veux pour preuve, si vous voulez, la logique même de la société des individus. Vous citez l'un et l'autre, Marcel Gauchet, Justine Lacroix, le livre de Catherine Colliot-Télène, « La démocratie sans démos ». Ah oui, c'est une société des individus. Une société des individus, ce serait en fait une société des étrangers, puisque elle serait purgée de toute prétention à une quelconque identité partagée. Les membres n'auraient en commun que les règles destinées à préserver le libre jeu de leurs droits et de leurs intérêts. Voilà l'individualisme accompli. Or, nous nous rendons bien compte que ça ne marche pas comme ça. Qu'est-ce qu'un monde commun ? Bon, c'est une communauté particulière et nous ne connaissons de communauté politique que la nation. Et nous sommes renvoyés aujourd'hui à notre identité nationale par justement les événements du monde. Le thème de l'identité était, si vous voulez, nul et non avenu dans les années 70, 80, 90 et même au début des années 2000. Personne n'en parlait, ça n'existait pas, ça ne faisait pas partie du langage. C'est revenu dans le langage précisément parce que les sociétés se fissurent. Nous ne sommes pas une société des étrangers, il y a dans nos sociétés des étrangers qui en refusent les règles. Je parlais de la question du voile, peut-être ne peut-elle pas être tranchée en termes de droit, mais alors elle peut l'être en termes de mœurs. Nous avons nos mœurs, une certaine idée du rapport entre les hommes et les femmes, antérieure d'ailleurs à la Déclaration des droits de l'homme, comme le montre aussi bien Claude Habib dans son livre « Galanterie française » que Benedetta Craveri dans « L'âge de la conversation », une présence des femmes dans l'espace public, le refus du règlement de la coexistence des sexes par la séparation. Ces mœurs-là, nous voulons pouvoir les préserver. Ça veut dire que nous formons une communauté d'appartenance et qu'une pure société des individus est tout simplement impossible. Marcel Gauchet.
Non, elle est possible. Elle est possible. Mais il faut bien s'entendre sur ce que ça veut dire. Justement, une société des individus, ça ne peut pas être une société où les individus oublient qu'ils sont en grande partie fabriqués par la société, que c'est la société qui leur permet d'exister. C'est une société paradoxale, la société des individus, parce que c'est la société qui mobilise le plus de moyens collectifs au service de l'existence des individus. Mais il est vrai que le vice constitutif, en quelque sorte, de cette société, c'est précisément l'illusion qu'elle crée de donner aux individus le sentiment qu'ils sont les enfants de leurs propres œuvres, ce qui est tout sauf la réalité. Ce qui fait qu'on bute sans arrêt sur ces dilemmes qu'il s'agit de ramener à leur source, et l'intérêt de les ramener à leur source, c'est de les dédramatiser. Je crois que s'il y a une chose qui ne nous menace pas de ce point de vue, c'est la dissolution de la société dans une atomisation générale, qui était le grand fantasme conservateur du 19e siècle. Nous n'en sommes pas là, mais nous sommes dans une société travaillée par des contradictions. Si le thème de l'identité que vous souleviez à juste titre est très révélateur, c'est tout simplement le fruit de la globalisation. C'est-à-dire, de l'ouverture des sociétés les unes sur les autres à l'intérieur d'un espace global. À partir de là, on se rend compte de ce qu'on ignorait à l'époque où les sociétés se définissaient essentiellement par deux verselles de l'intérieur, qu'il y a des différences très profondes, très significatives, et auxquelles les membres de ces collectivités sont très légitimement attachés. Mais c'est quelque chose que la dynamique individualiste va tendre à mettre de côté, mais qui revient en retour. Donc il ne faut pas raisonner dans les termes d'une dissolution, mais dans les termes tout simplement de nouvelles contradictions que nous voyons au travail dans nos sociétés.
Justine Lacroix.
Oui, sur l'individualisme, bien sûr, je crois qu'il faut toujours revenir à la base et bien délimiter ou faire la distinction entre ce qu'on appelle un individualisme descriptif et un individualisme normatif. Donc, descriptivement, il est absolument clair que l'individu est le produit d'institutions et de communautés, de sociétés particulières. Je pense qu'il y a aucun penseur libéral qui nierait cela. Le principe de l'individualisme normatif, c'est de dire simplement qu'il est toujours possible pour l'individu de prendre ses distances dans une certaine mesure par rapport à l'ordre social à laquelle il appartient. Il a des appartenances, mais il n'est pas enchaîné à ses appartenances. Il peut toujours s'en distinguer. Et par rapport à la question de l'identité, oui, mais bien sûr que... nous, dans notre ouvrage, on a pris nos distances aussi avec la thèse de Catherine Colliot-Hélène. Son oui. ouvrage contient beaucoup de choses tout à fait passionnantes, mais elle escamote, à notre sens, beaucoup trop la notion de communauté et nous rappelle que l'importance d'un monde commun est au cœur de la pensée, notamment d'Hannah Arendt, que nous avons tenté de mobiliser. Le repli sur un certain nombre de questions identitaires a aussi partie liée, me semble-t-il, avec l'affaiblissement de la solidarité sociale. Je veux dire, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est pas forcément, effectivement, comme le disait Marcel Gauchet, une atomisation galopante de la société, mais on constate une certaine forme de séparatisme social, dont témoignent les phénomènes de regroupement scolaire, ou d'éviction, de fuite des établissements publics, les phénomènes d'exil fiscal. Du fait, il y a une sorte de dislocation du commun en communautés similaires qui tentent à se replier les unes sur les autres. C'est un phénomène qui n'a pas grand-chose, je pense, n'est pas directement lié au droit individuel.
Oui, mais vous dites un monde commun. Et vous parlez d'un séparatisme social. Oui. Il existe aussi dans nos sociétés, Justine Lacroix, des phénomènes de séparatisme culturel et territorial qui, encore une fois, renvoient malgré eux les Français, à leur identité, au « nous » qu'ils forment et un « nous » qu'ils avaient oublié. Ce monde commun, c'est aussi, et ça redevient, par la force des choses, non pas simplement sous l'effet de la globalisation, comme le disait Marcel Gauchet, mais sous l'effet, disons, des migrations, ça redevient la communauté nationale, qui était la communauté politique par excellence, mais en quelque sorte sans y penser, et qui maintenant y pense à nouveau. C'est-à-dire, voilà, quelle nation formons-nous? Voulons-nous rester une nation? À quel prix? Comment doit s'opérer l'intégration des nouveaux venus? Toutes ces questions se posent à toutes les sociétés européennes aujourd'hui, et elle ne relève pas exclusivement des droits de l'homme. elle relève justement de ce sentiment d'appartenance qu'on avait peut-être à tort négligé à une époque où la question ne se posait pas avec l'acuité qu'elle a prise aujourd'hui, Justine
Lacroix. Oui, mais simplement, peut-être la notion de monde commun, elle doit ici être précisée, parce que je ne suis pas sûre que le monde commun que vous avez en tête quand vous posez cette question soit exactement le même que celui que j'ai à l'esprit.
Ah, sûrement pas, c'est vrai.
Le monde commun au sens d'arène, il se forge par la délibération publique entre ceux qui se reconnaissent mutuellement comme des égaux et ils refusent effectivement de ramener ce monde commun à un affect identitaire. Ça me paraît assez clair et je rappelle que Arendt était des plus méfiantes quant à l'équation posée entre nationalité et citoyenneté. Et là, effectivement, il y a sans doute une différence, je crois, à la nécessité d'une forme de communauté. Nous croyons encore, nous défendons d'ailleurs à la fin de notre ouvrage, la nécessité de l'État, qui est le seul espace de redistribution sociale qui se maintienne encore aujourd'hui, tant que bien que mal, dans le monde contemporain. Nous assumons cette méfiance vis-à-vis sur toute tentative de replier le monde commun sur une forme d'identité partagée. Je veux dire,
Le mot d'identité fait peur, mais à ce moment-là, on peut parler d'expérience partagée, on peut parler de communauté,
d'agir
de destin,
en commun, de
comme le faisait Otto Bauer, l'austro-marxiste, communauté de destin formée d'interactions réciproques, communauté de culture. Il osait même parler de communauté de caractère. Moi, j'utilise le terme d'identité parce que il y a une identité personnelle qui dit je et une identité collective qui dit nous. Mais si le mot d'identité peut paraître figé, si vous voulez, rétréci, eh bien, on peut en utiliser d'autres.
Moi, j'ai pas de difficulté avec l'identité du moment qu'elle est pas figée et qu'elle soit vue comme la résultante aussi d'un processus de délibération continue. Je veux dire, la question des rapports entre les hommes et les femmes qui définiraient notre identité, cette conception n'a cessé d'évoluer et elle ne va pas cesser d'évoluer. Donc, je ne sais pas s'il y a moyen, à un moment ou l'autre, de saisir l'essence de ce que serait une conception française des rapports entre les hommes et les femmes, qui me paraît.
Marcel Gaucher.
Alors, oui, cette notion d'identité est une notion piège par les sous-entendus qu'elle comporte ou les présupposés qu'elle charrie. Mais on ne peut pas réduire l'identité à quelque chose qui se construirait au présent dans une délibération actuelle. C'est dans le mot d'identité, c'est d'ailleurs un peu l'acception spontanée selon laquelle il est entendu dans la vie collective, c'est aussi une identité d'héritage. Mmh. C'est la dimension du passé qui lui donne sa force. Et je crois qu'on peut lui donner un contenu tout à fait pacifique dans l'articulation entre le legs d'une histoire et le partage de valeurs abstraites sur la base de laquelle va se construire l'identité actuelle, qui ne cesse évidemment de se transformer en fonction des apports de toute nature que l'expérience temporelle lui amène. Donc, on peut dire qu'il y a en Europe des façons nationales d'entendre des concepts partagés. Les valeurs des sociétés européennes ou les principes sur lesquels elles reposent sont en gros les mêmes. Mais il y a bien une vision française de la République, par exemple, ou de la laïcité, qui n'est pas partagée par nos voisins, qui peinent quelquefois beaucoup à la comprendre. Il y a une
vision. Qui la juge liberticide, d'ailleurs.
Qui la juge souvent liberticide. Enfin, une élite académique qui s'exprime sur ces sujets la juge liberticide. Je suis pas sûr que ce soit le cas nécessairement de la grande masse des populations. Il y a bien une entente anglaise de la liberté qui est très forte. Est très comme une entente de la souveraineté parlementaire à la britannique qui pour les Français est absolument inintelligible, mais dans l'autre sens il y a une version allemande de la liberté aussi qui a sa légitimité. Ça n'empêche pas que le principe de liberté soit commun et que la manière de l'entendre soit diverse. Je crois que c'est autour de ça que se construisent les identités. Et aujourd'hui il y a en effet un changement dans ces identités de tous les côtés par le fait qu'on a découvert cette pluralité à laquelle on était peu sensible par une espèce de chauvinisme inconscient. Et la mise en commun européenne de ces façons d'entendre les notions fondamentales du monde démocratique est en train de les changer, toutes, d'une manière très intéressante à suivre. Donc, identité, c'est aussi cette capacité de réactualiser un héritage. Je pense que c'est en grande partie sur ce point que la discussion d'aujourd'hui doit porter. Comment réinterprétons-nous, parce que nous ne pouvons que réinterpréter sans cesse, les héritages historiques multiples qui nous ont façonnés?
Alors, pour les réinterpréter, il faut surtout ne pas s'en défaire,
d'où le
rôle crucial de l'école, sur lequel d'ailleurs insistait Hannah Arendt, qui disait que la faculté humaine, par excellence, c'est de commencer quelque chose. Le commencement est né avec l'homme, disait saint Augustin. Mais pour que l'enfant exerce ses capacités révolutionnaires, commencer quelque chose de neuf, elle disait, l'école doit être conservatrice, c'est-à-dire introduire l'enfant dans un monde plus vieux que lui. Et les adultes, parents ou professeurs, ont pour rôle de justement d'assumer la responsabilité du monde. Et le monde, c'est pas forcément tout le monde, c'est le monde dans lequel les enfants sont nés. Et alors justement, vous parliez d'Arène, Justine Lacroix, et vous dites qu'une politique des droits de l'homme, vous revendiquez ce terme, peut se fonder sur certaines intuitions arendtiennes, notamment le droit d'avoir des droits. Alors là, je voudrais peut-être replacer cette phrase dans le contexte où elle a été écrite, et puis vous me direz ce que vous entendez par là, parce que il est vrai, et c'est intéressant aussi par rapport au livre que vous avez écrit, que Hannah Arendt, en apparence, prend le parti de Burke. Elle dit, Burke, à la fin de son volume sur l'impérialisme, Burke a dit « Les droits sont une abstraction, il vaut mieux s'en remettre à l'héritage inaliénable des droits que chacun transmet à ses enfants ». Et elle parle de la force pragmatique du concept de Burke qui a pris un caractère irréfutable à la lumière de nos multiples expériences. Multiples expériences, c'est celle du monde totalitaire. La perte des droits nationaux a entraîné dans tous les cas celle des droits de l'homme. Et je lis quand même la phrase suivante, elle est intéressante. « Jusqu'à nouvel ordre, seule la restauration ou l'établissement de droits nationaux, comme le montre le récent exemple de l'État d'Israël, peut assurer la restauration des droits humains. » Et elle dit à ce moment-là, un peu plus loin, elle parle du droit d'avoir des droits, c'est-à-dire de vivre dans une structure où on est jugé en fonction de ses actes et de ses opinions, et être privé des droits de l'homme, c'est être privé d'une place dans le monde qui donne de l'importance aux opinions et rend les actions significatives. Oui, mais voilà, donc ça veut dire il faut avoir une place dans une certaine communauté. Mais toutes les communautés ne sont pas équivalentes, les individus ne sont pas interchangeables, donc il existe des communautés humaines. Et de cela, on ne peut pas faire abstraction, en quelque sorte, au nom du droit d'avoir des droits, réinterprété comme, si vous voulez, le principe de l'hospitalité inconditionnelle.
Ah, mais c'est pas du tout ce que nous disons.
Justine Lacroix.
Effectivement, dans l'ouvrage, nous sommes appuyés sur Arendt, bon, pour montrer, mais je tiens à préciser tout de suite que notre interprétation d'Arendt n'a rien de particulièrement novateur. Nous nous sommes inscrits dans la foulée des interprétations qui étaient proposées par Robert Le Gros, puis par Étienne Tassin, Étienne Balibar, et qui sont quand même largement reçues dans la sphère internationale aujourd'hui. Comme quoi, effectivement, Arendt reconnaît la force pragmatique du diagnostic de Burke en disant « qu'est-ce qu'on a constaté historiquement ?» C'est que ces droits qui étaient censés être des droits naturels qui protégeaient l'individu, abstraction faite de ses appartenances, n'ont effectivement fonctionné et protégé les individus qu'à partir du moment où ils étaient membres de communautés nationales. Et donc, à partir de là, il est parfois tentant de dire, vous voyez, Arendt finalement nous dit qu'il n'y a de droit de l'homme que les droits des nationaux. Ce n'est pas ce qu'elle dit. Ce qu'elle dit, c'est qu'il faut effectivement que le droit à avoir des droits, c'est le droit d'appartenir à une communauté particulière. Et elle dit, c'est le droit d'appartenir à un « home ». Et « home » a été traduit d'ailleurs en français de façon assez curieuse par « patrie ». Patrie, c'est « homeland », c'est pas « home ». Home, c'est un foyer, c'est une trame sociale dans laquelle on est reconnu comme un être significatif. Et Arendt envisage explicitement la possibilité que ce « home », que cette trame sociale dans laquelle on est reconnu comme un être significatif, ne soit pas le pays d'origine, puisqu'elle parle à un moment, elle dit que les vagues d'immigration ne sont pas un phénomène nouveau. Ce qui a été nouveau pour les apatrides, c'était l'impossibilité de retrouver un lieu. Donc effectivement, la reconnaissance des droits, l'exercice des droits, droit, l'exercice de l'autonomie individuelle et collective, ça suppose une communauté politique dans laquelle vous êtes reconnu comme un être significatif et où votre voix porte. Et là-dessus, nous insistons là-dessus. Quant à savoir si cette communauté, ce monde commun, doit se confondre avec une appartenance nationale, là, ça nous paraît beaucoup plus ouvert. Et en tout cas, on ne pense pas que c'était la position d'Arendt.
La position d'Arendt est, disons, elle est variable.
Alors disons que ce n'est pas la nôtre.
Voilà, c'est ça, elle est variable. Elle critique en effet l'État-nation, oui. Et elle revendique aussi la nécessité de droits nationaux, et elle dit qu'à un moment donné, dans un article, elle dit « Tout comme l'homme et la femme ne peuvent être mêmes, à savoir humains, qu'en étant absolument différents de l'un de l'autre, ainsi le national de chaque pays ne peut entrer dans cette histoire universelle de l'humanité qu'en restant ce qu'il est et en s'y tenant obstinément. Un citoyen du monde qui vivrait sous la tyrannie d'un empire universel, parlerait et penserait dans une sorte de super espéranto, ne serait pas moins un monstre qu'un hermaphrodite. »
Elle est contre l'État mondial et nous le sommes aussi. Il n'y a pas de doute là-dessus. Elle avait trop conscience que la pluralité était la condition de la vie politique. Sans pluralité, il n'y a pas de vie politique. Mais ça, c'est autre chose que de réclamer l'équation de la nationalité et de la citoyenneté.
Marcel Bauchet.
Alors, il y a une illusion constitutive des droits de l'homme. L'illusion est liée à l'universalité qu'on leur attribue. Ces droits sont universels. Tout homme, tout humain les détient par essence. Mais, en pratique, ces droits supposent, d'abord pour naître, une communauté particulière à l'intérieur de laquelle ils prennent sens, et d'autre part, leur réalisation suppose elle aussi les moyens d'une communauté à l'intérieur de laquelle ils vont s'inscrire. Et ça, c'est une tension à l'intérieur de laquelle, aujourd'hui, nous ne cessons d'évoluer du fait de l'importance nouvelle qu'acquièrent les flux migratoires. C'est avec cela que nous nous battons au quotidien dans des dilemmes dont nous gagnerions à remonter à la source. Il n'y a pas de société universelle du genre humain. Il n'y a que des sociétés particulières. À l'intérieur de ces sociétés particulières, nous en sommes venus à un moment donné à formuler des droits universels de leurs membres. Il est très tentant de conclure de ces droits universels à l'existence d'une société universelle qui n'est pas. À partir de là, notre problème politique, c'est le problème philosophique du XXIe siècle, hein, on y va nous poursuivre longtemps, c'est la manière dont nous trouvons un compromis entre ces deux dimensions qui sont l'une et l'autre absolument incontournables. L'existence de droits universels et l'existence de communautés particulières avec des candidats au nom de l'universalité de leurs droits à s'inscrire dans des communautés particulières qui ne sont pas leur communauté d'origine. C'est le problème migratoire, c'est un problème pratique, mais c'est en fait le plus profond problème philosophique qui nous est posé aujourd'hui.
Problème philosophique très profond, Marcel Gauchet, parce qu'il m'amène, moi, et peut-être à tort, à me demander aussi s'il y a une histoire universelle. Il n'y a pas de société universelle. Mais y a-t-il une histoire universelle ? Vous en êtes convaincu, vous montrez avec un brio extraordinaire que l'histoire humaine, c'est le passage de l'hétéronomie à l'autonomie, une société assujettie à une loi venue d'en haut vers une société sujette d'elle-même. Cette thèse, vous la déployez dans votre dernier livre. Mais certaines sociétés, alors vous dites que c'est un phénomène qu'on peut lier à cette histoire, mais ce n'est pas sûr, sont en proie à un phénomène de désécularisation très massif. Les dernières déclarations de Recep Erdogan vont dans ce sens. Erdogan a dit que la décision de la Commission européenne des droits de l'homme autorisant les entreprises à interdire les signes religieux ostensibles dans certains cas, eh bien, que cette décision était une croisade contre l'islam. On sait comment il a traité un certain nombre de pays européens. Il a invité, et ça, curieusement, la presse française ne s'en est pas fait écho, et il a invité les Turcs à n'avoir pas 3 mais 5 enfants, en disant « vous êtes l'avenir de l'Europe ». Voilà une situation tout à fait singulière, comme si deux historicités, deux visions même de l'histoire des hommes, en quelque sorte, entraient en collision. Et cela, évidemment, a des effets sur les sociétés européennes. Et cela, encore une fois, ne peut pas être pensé exclusivement dans l'idiome des droits de l'homme.
Non, bien sûr, mais à aucun moment, je crois, nous n'avons avancé l'idée dans notre ouvrage ou ailleurs que toute l'histoire universelle, que tous les problèmes de notre temps devaient être saisis par l'idiome des droits de l'homme. Je crois d'ailleurs qu'il faut insister, alors bon, je parle peut-être trop d'instrumentalisation, de perversion, mais il faut distinguer toute revendication, toute forme d'opinion, Claude Lefort le rappelait quand il défendait la portée politique des droits de l'homme, toute revendication n'est pas un droit, toute opinion n'est pas un droit.
Marcel Gauchet, pour conclure.
Encore faut-il le faire comprendre à ceux qui s'en revendiquent. C'est de la difficulté. Je ne crois pas que nous ayons affaire à un phénomène de désécularisation dans le cas des sociétés musulmanes. C'est le point clé. N'oublions pas que la réaction de M. Erdogan est en grande partie inspirée par le dépit de n'être pas admis dans le club européen. Et cette volonté d'y être admis me paraît un geste hautement significatif. C'est donc qu'il y reconnaît un intérêt vital pour son pays et au fond pour les musulmans de l'avenir qu'il prétend représenter. C'est là-dessus que nous avons un autre problème majeur, c'est que je crois bien qu'il existe une histoire universelle, mais cette histoire universelle, elle est peuplée de contradictions qui peuvent être violentes. Nous sommes devant une de ces contradictions violentes, mais je crois qu'elle est surmontable.
Bon, ben très bien. On terminera sur cette note d'un optimisme mesuré. Merci beaucoup, Justine
Merci.
Lacroix. Merci, Marcel Gauchet. Donc, je rappelle le titre de vos deux livres. Justine Lacroix, vous avez coécrit avec Jean-Yves Pranchère, Le procès des droits de l'homme, Généalogie du scepticisme démocratique aux éditions du Seuil. Marcel Gauchet, c'est le 4e volume de l'Avènement de la démocratie, Le nouveau monde, qui paraît dans la Bibliothèque des sciences humaines aux éditions Gallimard. Vous trouverez les références bibliographiques sur le site répliquefranceculture.fr où l'émission est téléchargeable un an et réécoutable à vie. Je voudrais, avant de rendre l'antenne, revenir à l'émission de la semaine dernière. L'un de mes deux invités a cité cette phrase de Renaud Camus, « La race blanche est l'aristocratie de l'humanité ». Or, le tweet complet était « Pour le meilleur et pour le pire, la race blanche est l'aristocratie de l'humanité et nous sommes en 1793 ». Et Renaud Camus précise « Aristocratie qu'on sache, ce n'est pas un terme particulièrement louangeur ». C'est la description d'un état de fait. Les Blancs ont joui d'immenses privilèges, économiques, culturels et politiques, souvent injustes et injustement défendus ou imposés. Et ils sont en train de les payer très cher. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Pensée juive et modernité ». Mes invités seront Sophie Nordman et Bruno Carcenti. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Hochard et Alexandra Malka. À la technique aujourd'hui, Éric Boisset. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.